Bonjour, il est né il y a 100 ans, le 17 mai 1904, Jean Gabin.
Ce métier-là, je voulais pas le faire. À l'encontre de tous les gars qui ont voulu faire ce métier, moi je voulais pas le faire. Parce que je voyais mon père apprendre ses rôles, parce que mon père était dans le métier. Ma mère aussi a fait son tour de champ, moi je suis un gars de la balle. Moi je voulais être mécanicien de locomotive à 17 ans.
Ans d'histoire. Le 17 novembre 1976, au cimetière du Père-Lachaise, ils étaient des milliers à venir saluer une dernière fois celui qui fut sans doute le plus grand acteur français du XXe siècle. Les plus âgés se souvenaient du héros de la Bandera, de Pépé le Moko, de la Belle Équipe, de la Bête Humaine, de la Grande Illusion ou de Quai des Brumes. Les plus jeunes de ses rôles de Maigret, du Président, du Saint-Jean-Hiver, du Clan des Siciliens ou de l'affaire Dominici. Pour tout cela, il s'appelait Jean Gabin. Mais pour tous ceux qui avaient la chance de l'avoir connu, loin des caméras, en famille, dans sa ferme de l'Orne, pour ses amis de toujours, il était Jean Montcorgé, un homme pudique qui ne parlait jamais de sa vie privée et très rarement de sa jeunesse, quand personne encore n'avait entendu parler de lui.
J'étais manœuvre et magasinier. J'ai commencé à travailler à 14 ans, moi. J'étais seul. J'avais perdu ma mère, j'étais seul et mon père n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans, 14 ans et demi, quoi. J'étais un élève très moyen, quoi. Je jouais avec les gars, quoi. Je jouais avec des copains, je jouais aux plumes, sur le trottoir dans la rue. J'étais livré moi-même très jeune, vous savez, quand il faut gagner sa croûte, ben faut essayer de gagner sa croûte, faut travailler pour pouvoir vivre. C'était au jour le jour, ce qui m'empêchait pas d'avoir, de ne pas gagner tellement d'argent, mais d'avoir une vie très agréable. Ça m'empêchait pas d'aller danser avec les filles, ça m'empêchait pas d'aller jouer au football. Moi, j'étais très heureux. J'étais très heureux, j'enviais personne.
Mathias Montcorgé, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme on se connaît depuis 30 ans, que ton père Jean Gabin et le mien étaient des amis depuis la guerre, je crois que j'aurais du mal aujourd'hui à te vous voyez, hein, et exceptionnellement, je ne l'ai jamais fait encore dans cette émission, je crois que le mieux c'est peut-être qu'on se tutoie.
Oui, et hein. Moi aussi, tout doucement.
Alors, pour parler de ton père, que l'on retrouve d'ailleurs dans un très beau livre que tu viens de publier avec ta sœur Florence, non pas l'acteur, mais Jean Gabin, c'est le titre du livre, Jean Gabin hors champ, c'est-à-dire loin des caméras, en famille, dans sa propriété de l'Orne, au milieu de ses amis, mais aussi à des moments peu connu de sa vie, dans sa jeunesse par exemple, on vient de l'entendre, ou pendant la guerre. Il en parlait très peu, mais il attachait beaucoup d'importance à ces moments-là, hors champ, Mathias.
Ah oui, bah c'était, pour lui c'était très important. Donc ce qu'on a voulu faire en fait, c'était d'offrir à tout son public, leur offrir un peu papa autrement, quoi. Les gens connaissent les photos, machin, les films et tout ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer comment, ce qu'il aimait dans la vie, d'abord sa vie de famille et puis ses passions, en dehors du cinéma.
Et plus que le cinéma, il était plus attaché qu'au cinéma?
Le cinéma, il aimait. C'est bien sûr qu'il aimait ça, parce que de temps en temps, et comme il était excessif, il disait « c'est pas un métier où je vais arrêter », enfin tout ça, mais non, il aimait tellement ça, c'est sûr. Mais par contre, il voulait fonder une famille depuis longtemps, ça c'est sûr, et la terre et les chevaux. Et ça, il était passionné par ça, il aimait ça, mais depuis très longtemps, il avait ça en tête, de faire sa propriété et de nous avoir dans la propriété, d'être...
Voilà. Alors, on l'a entendu tout à l'heure évoquer sa jeunesse. Évidemment, tu ne l'as pas connu, tu es né en 1955. Est-ce qu'il parlait justement de ces moments assez difficiles de sa vie, quand il était, par exemple, à Mériel, où il est né, il y a en 1904, il y a 100 ans je crois que, est-ce qu'il parlait de sa jeunesse?
En fait, papa, il était toujours... il parlait... plus en avant, toujours le futur, très peu du passé. De temps en temps, il en parlait, et il avait des certains moments qui étaient importants pour lui, et c'est vrai que Mériel, toute sa jeunesse jusqu'à 18 ans, et il y a eu des moments très importants. Par exemple, il y a quelqu'un qui a énormément compté pour lui, dans sa jeunesse, c'est son beau-frère, le mari de Madeleine, de sa sœur, qui était Jean Poésie, et qui lui a en fait appris la vie. Parce que en fait, il était presque livré à lui-même. C'est comme j'entendais là. Et donc, il a perdu sa mère assez tôt. Son père n'était pas souvent là. Et en fait, c'est Jean Poésy qui s'est occupé de lui et qui lui a appris à aimer la campagne, à aimer la terre, à aimer la chasse, à aimer braconner et à aussi la vie.
Alors, le cinéma est arrivé assez tard, puisqu'il a 26 ans, son premier film date de 1930, puis il y en a eu quelques autres qu'on a oubliés. Puis alors, en 1935, il y a La Bandera de Julien Duvivier, qui est le premier grand film de ton père, suivi un an plus tard de ce qui fut en 1936 le film emblématique du Front Populaire, La Belle Équipe, avec cette chanson très connue de Jean Gabin.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans emprunt son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau,
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jean Gabin avec son fils Mathias Gabin Montcorgé.
C'était justement Jean Gabin dans La Belle Équipe, et il chantait très bien en fait, c'est peut-être ses origines musicales, non?
Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Oh bah il chantait bien, mais c'est marrant d'entendre ça parce qu'en plus, comme je fais des missions avec toi, ça me rappelle aussi des souvenirs quand il était avec les amis ou avec nous, enfin en privé, de temps en temps il fredonnait comme ça, ça me rappelle plein de choses.
Alors ça, c'est La Belle Équipe, mais il y a eu beaucoup d'autres films dans les années 30, hein, c'est de très grands films. Il y a eu La Grande Illusion, Pépé le Moko, Quai des Brumes, La Bête Humaine, Le Jour se lève. En 5 ans, il devient l'acteur le plus populaire du cinéma français, hein, celui de Carnet, de Duvivier, de Renoir. Et alors cette popularité, chose étrange, il y renonce quand la guerre se déclenche, et contrairement à la plupart des grands acteurs de l'époque, Jean Gabin quitte donc la France pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il voulait pas tourner à l'époque de Vichy pendant la France occupée ?
Ah non, bah ça il aurait jamais accepté. Hein. Quand en 39 donc la France a été envahie, ça il a refusé. Donc il est parti en Espagne, et de l'Espagne il est parti aux États-Unis. Et ça, il aurait jamais accepté de tourner ou quoi. Mais c'était impensable pour lui. Donc il est parti aux États-Unis. Et
Il va tourner deux films,
ouais, mais en fait, je suis sûr que dans sa tête, il n'y avait qu'une chose qu'il voulait, c'était le moment où il pouvait s'engager et revenir et se battre pour son pays.
Oui, parce que alors, en 43, il s'engage, comme il avait été fusillé marin pendant son service militaire, il s'engage dans la marine, il va se retrouver dans la deuxième division blindée du général Leclerc. Il y a dans ce livre, d'ailleurs, des photos que très peu de gens connaissent, c'est Gabin, non pas acteur, mais en tenue de second maître devant un char, il était chef de char. C'est quand même assez extraordinaire, il a 39 ans, il faut le rappeler, il est extrêmement célèbre et il devient sous-officier dans la marine pour faire la guerre.
Bah oui, 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 non, mais ça, et d'ailleurs, dans le bouquin, je montre la fameuse lettre qui est aux États-Unis où on lui dit, mais vous pouvez avoir tel endroit, en fait,
Pénard,
et le troisième, c'est aller au feu, quoi. Et lui, il l'a pris tout de suite, parce que... Mais bon, on en a parlé un petit peu, on en parlait comme ça de temps en temps à la maison, puis avec ton père quand même. Et jamais dans sa tête, il aurait pu dire, bon, je me suis plongé, puis je reviens après quand tout est fini. Ce qu'il voulait, c'est se battre, et se battre avec tous les gars, avec qui il a ses copains de char, comme il disait, mes quatre copains de char. Mais alors, ils étaient deux comme ça, hein, parce qu'il faut pas oublier. Hein,
Jean-Pierre Aumont.
Voilà, il y en a deux qui sont engagés, c'est Jean-Pierre Aumont et papa.
La plupart des comédiens de l'époque étaient restés hein, dans la France occupée. Alors lui, il se bat, il est plus comédien, là, il se bat vraiment. Il va jusqu'au nid d'aigle de Berchtesgaden, au nid d'aigle de Hitler. Et puis alors, il est dans les fusiliers marins. Et c'est une expérience qui l'a marqué d'ailleurs, et dont il se rappellera 30 ans plus tard, sur le croiseur école Jeanne d'Arc, où il faisait, où tu faisais ton service militaire. Il était venu assister à ton départ pour un tour du monde, c'était en 1975.
Parmi les élèves de la Jeanne cette année, le matelot Moncorget. Moncorget, c'est le nom officiel de Jean Gabin. L'acteur n'est pas un novice lui-même dans l'art maritime. Il a été matelot lui-même il y a quelques années. Ce matin, il avait un esprit de 20 ans pour répondre à Gilbert Picard.
Et alors là, je viens, c'est pas compliqué, pour dire au revoir à mon gosse, qui est sur la Jeanne, qui part aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis plus que ravi, je pourrais dire même que je suis fier qu'il soit dans la marine. Et lui, il n'a qu'une hâte, c'est foutre le camp. La marine est une arme formidable, c'est une arme magnifique, de laquelle je garde un magnifique souvenir, aussi bien de mon actif que pendant la guerre. Il y a une très grande camaraderie, les gars sont très bien.
Vous avez l'impression aujourd'hui de revivre un peu une page de votre jeunesse?
Ah mais ça me rajeunit d'être là. Ça me rajeunit, mais je me sens 20 ans aujourd'hui.
Allez le galop, le divin chauve. La gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
Et c'était bien sûr un extrait du Singe en hiver, Jean Gabin avec Belmondo. Alors dans ce film, comme dans ce qu'il disait à bord de la Jeanne d'Arc, on a entendu, on voit que ton père n'a jamais vraiment quitté la marine, ni ses souvenirs de guerre. Ça a une place très importante, c'est ce que tu écris dans ce livre d'ailleurs, Mathias.
Ah oui, bah oui, oui, c'était... Ça, quand il parlait bon de la marine, c'était... Bon, bah, de toute façon, tu sais très bien où il a voulu que ses cendres soient jetées en mer d'Iroise. Et
au large de Brest.
Au large de Brest. Parce que il disait toujours, moi il me disait toujours, il me dit les seuls copains que j'ai eus c'est pendant la guerre, les vrais, parce que s'il y avait pas Gabin quoi, ils s'en foutaient.
Le quartier maître chef Moncorget.
Voilà.
Alors cet engagement pendant la guerre, Mathias, ça lui coûtait cher hein, de s'engager en 43, puisque quand il revient en 1945, ben on l'a un peu oublié, puis surtout il a les cheveux blancs. Et
bah,
ça,
oui.
Ça va être une période pour le cinéma, il trouve plus beaucoup de rôles en fait.
Non, ben non, il a eu la période noire là où il disait toujours le drapeau noir flotte sur la marmite. Mais comme il voulait pas changer, lui, il s'est dit bon, bah c'est je suis comme ça et puis c'est tout. S'ils me veulent pas comme ça, eh ben ils me voudront pas. Mais lui, il a pas voulu changer comme certains peut-être maintenant acteurs qui essaieraient de se teindre les cheveux ou quoi ou qu'est-ce. Mais lui, non, il a accepté de vieillir et puis voilà, c'était comme ça. Mais je voulais revenir à une chose au sujet de la marine. Parce que c'est pour moi un merveilleux souvenir, c'est quand, donc peu de temps avant que je parte pour faire le tour du monde, je suis parti 6 mois, et un jour, donc j'étais en perme, la dernière perme que j'ai eue, il m'a demandé une faveur, et il m'a dit, voilà gros père, je voudrais te demander quelque chose, voilà une faveur, que tu me fasses plaisir. Alors j'ai dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Bah je voudrais t'emmener avec ta mère, dîner, tous les trois. Mais la seule chose que je te demande, c'est que tu t'habilles en marin. Et je dis, bah oui, pourquoi? Bah, évidemment, il n'y a pas de problème. Et on est allé manger tous les trois au Fouquet's. Et il était heureux.
Alors justement, tu viens d'évoquer ta mère. Il n'y a pas que la couleur hein, des cheveux de ton père qui a changé au lendemain de la guerre. Il y a aussi sa vie, puisqu'en 1949, Jean Gabin se marie.
Pépé le Mocon se marie. Et oubliant pour une fois de jouer les durs, Jean Gabin a prononcé le oui fatidique et traditionnel en faveur de Mademoiselle Dominique Fournier, ex-mannequin. Un épilogue que les scénaristes avaient toujours refusé à Jean Gabin.
Entraîné par la passion et curieux de sensation, j'ai fait un mariage d'inclination avec une femme ultra-chie. Et quand nous sommes en public, sans me vanter sa beauté, flatte ma vanité. De l'étoile à l'opéra, fièrement...
Et c'était Moi le mari, une chanson chantée par Jean Gabin en 1930, 19 ans avec son mariage, mais que très bien avec les sentiments qu'il éprouvait pour ta mère. En fait, c'était un coup de foudre en 1949, Mathias.
Bah oui, bah, tu sais, quand je parle toujours de maman pour moi et de papa, j'ai toujours, toujours un peu le... Voilà, je suis ému toujours. La rencontre, il y a eu le coup de foudre entre papa et maman. Et en fait, c'est maman qui a fait les premiers pas, puisque papa n'osait pas. Et puis, ils se sont rencontrés le 28 janvier 49.
Ils se sont mariés le 28 avril, je crois.
Le 28 mars.
Le 28 mars.
Le 28 mars. Et Florence est née le 28 novembre.
Florence, la fille aînée. Alors là, vraiment, c'est un homme rangé, hein, lui qui a connu quand même les plus belles femmes du cinéma, Marlène Dietrich. Brusquement, il se range, je crois que c'est l'habilleuse de ton père qui disait de ce jour qu'il n'a plus jamais rencontré, regardé une autre femme.
Ah ouais, non, mais ça, papa voulait des enfants depuis très longtemps. Et toutes les femmes qu'il a rencontrées, elles n'ont jamais voulu avoir d'enfants avec lui. Mmh. Et là, il rencontre maman. Non seulement il y a le coup de foudre, mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle voulait avoir des enfants, fonder une famille, comme tout le monde. Et ça a été maman. Et puis, il nous a eu tous les trois. Il y a eu quand même, parce que maman avait un fils, qui s'appelle Jackie, qui est mon frère. Moi, je dis toujours mon frère, mais il a élevé Jackie, comme nous. Et il adorait Jackie, il l'appelait le frelon. Parce que papa donnait toujours des surnoms, mais donc on était quatre quoi à la maison.
Alors donc il y a eu Florence en 1949, puis sa deuxième fille Valérie, puis toi en 1955, et puis alors il y a eu aussi dans les années 50 l'achat d'une ferme dans l'Orne, une passion pour la terre et pour l'élevage que Jean Gabin éprouvait depuis longtemps, si on en croit quelques articles de journaux sélectionnés par Stéphanie Duncan.
Oui, Jean Gabin n'a jamais fait mystère que le cinéma n'était qu'une partie de sa vie. En 1930 déjà, voilà ce qu'écrit de lui un journaliste de la revue Gringoire. Je sais qu'il aime les animaux, qu'une de ses joies est de pouvoir les regarder vivre. Dès qu'il a pu réaliser son premier rêve, il fait l'acquisition d'une ferme. Et là, loin des studios, il vient se retremper dans la nature. La célébrité ne l'a pas entamé. Né terrien, il le reste de la tête aux pieds. Terrien, c'est aussi comme ça que le voit un magazine de cinéma en 1946. Au fond de son cœur, Gabin est un terrien. Il aime à s'imaginer retiré dans une ferme, au milieu de ses vaches et de ses volailles, en battant la plaine, un fusil sous le bras. Une image que Gabin ne dément pas, hein. En 74, par exemple, il déclare à la revue, lui, « Paysan, c'est un métier beaucoup plus sérieux que le cinéma. Moi, je ne travaille pas pour la gloire, mais pour l'argent. L'argent que je ne calcule pas en francs, mais en vaches. Maigret, c'est tant de vaches. Le président, un champ de fourrage. Le cap se rebiffe, un autre film, une treilleuse électrique. Et le baron de l'Écluse, une nouvelle fosse à Purin. » Ainsi, Montignoret reconnaît que les préoccupations de Gabin étaient très différentes des siennes. « Je ne fais pas courir de chevaux à Vincennes, disait-elle. Je n'élève pas de vaches et on n'a pas les mêmes idées sur bien des choses. » Mais Simone Signoret dit aussi l'avoir tendrement aimé sur le tournage du Chat. Jean Renoir disait aussi de Gabin, c'est certainement l'homme le plus honnête que j'ai rencontré dans ma vie. Il n'y a aucune ruse. Et Jean Delannoy parle de sa bonté, qui est peut-être, dit-il, le seul sentiment qu'un acteur ne puisse exprimer sans l'éprouver. Alors, Simone Signoret disait tout à l'heure qu'il n'avait pas les mêmes idées sur bien des choses. Alors, sur la politique, probablement, depuis toujours là-dessus, comme sur le reste, Gabin dit ce qu'il pense. En 1939, hein, la revue Cinémonde écrivait déjà « L'autre violon d'Ingres de Gabin est la politique. Il a ses opinions, ses théories, ses espoirs. Voudra-t-il un jour interpréter sa grande scène? Qui sait ?» En des idées politiques pas franchement à gauche, la peine de mort... « Catégoriquement pour, répond Gabin. Les intellectuels, les soi-disant élites, ont fichu la pagaille en France, écrit-il en 68, après 68. Le suffrage universel, c'est une connerie. Et même, les gonzesses ne devraient pas voter. Bon, mais pour lui, l'essentiel n'est pas là, semble-t-il. J'aime par-dessus tout la tranquillité, dit-il en 1950. Mes goûts sont simples. La pêche, la chasse, bien manger, des plats en sauce, arrosés d'un Beaujolais léger. Et Gabin ajoute, je suis aussi têtu qu'une mule, cela tient de famille. Nous avons tout ça dans le sang, de père en fils.
Ah bon, tu es aussi têtu que ton père.
Ah bon, je savais pas ça. J'avais pas entendu, mais bon, oui, c'est... On a un peu de ça, hein.
En tout cas, la passion aussi pour la terre, hein, puisque c'est ton métier, essentiellement pour l'élevage, en tout cas. Et on le voit. Et alors, on a l'impression qu'au fond, il faisait du cinéma essentiellement pour acheter cette propriété dans l'Orne, pour l'entretenir. Hein, on a entendu l'argent. Je ne le calcule pas en francs, mais en vaches.
Oui, il oublie les chevaux, hein, parce que, en fait, pour lui, c'était pas un métier le cinéma. C'est ce que
ah bon.
Je dis toujours. Non, non, c'était pas du tout un métier. Pour lui, il disait un métier, c'est docteur, médecin, avocat. Ça, c'était des métiers.
C'est quand même incroyable, quand même. C'était le
ah, mais lui, il
grand
était...
acteur de son temps.
Ah oui, non, mais de toute façon, je pense que toute sa carrière, puisqu'il le disait, bon, et pourtant ça a été jusqu'au bout, mais il disait toujours, c'est pas un métier qui dure, ça. On est balayé d'un seul coup. Donc, il voulait du sûr. Du sûr, c'était la terre, les bovins. Et puis, attention, il y a une chose, il avait toujours peur de manquer de manger. Donc, c'était pour nous, pour ses enfants, il voulait toujours qu'il y ait à manger. parce qu'il avait fait, bon, il avait connu la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième. Donc il avait toujours peur de ça.
Alors, cette passion pour la Terre, quand même, elle a été sacrément contrariée par un événement dont tu dis que ça a été un des plus importants de sa vie, une de ses plus grandes douleurs aussi, c'était l'arrivée, l'invasion de sa propriété par des paysans en colère. Ça, ça l'a profondément marqué, c'était en 62.
62, ouais. Ça a été terrible pour lui, il s'en est jamais remis.
Qu'est-ce qu'on lui reprochait?
C'est-à-dire qu'il lui reprochait, c'était en 62, c'était au moment de la loi à l'Assemblée des affaires et des cumuls, qu'une personne ne pouvait pas exploiter plus de 30 hectares, et on reprochait à papa d'avoir acheté des terres. Ce qu'ils oubliaient de dire, c'est quand même papa les a achetés le double de ce que ça valait, ils étaient bien contents, puis après, ils voulaient qu'il lui loue, que lui n'exploite pas, parce que et c'était pas son métier, il était pas paysan. Et ça, de toute façon, il s'en est jamais remis, il a jamais été le même, avec les gens, par chez nous, là, à côté d'un moulin à marche. Les gens qui avaient gardé qu'il était très proche de lui, il y a certaines personnes, il y a deux, trois personnes comme ça, et disaient, ton père n'a jamais plus été le même, de juillet 62 à après, et même jusqu'en 76, puisqu'en 76 ça a continué quand il y a eu la fameuse sécheresse, et que lui, on l'a dit à la télé, qu'il ne toucherait pas l'impôt sécheresse, qu'il ne toucherait pas les subventions. Et moi j'ai vu papa pleurer pour la première fois, quand on voit son père pleurer, on n'oublie jamais, mais il me disait toujours, tu vois gros-père, ils veulent pas de moi, ils ont pas compris, je comprends pas moi ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas compris que moi je les aimais, que j'aimais la terre, que j'aurais été leur porte-drapeau, que j'aurais pu... Ils auraient pu me demander ce qu'ils voulaient, et il a jamais compris. C'était une blessure qui a jamais été refermée, et moi, j'en souffre encore. Bon, il disait, toi, tu t'appelleras Montcorgé, mais moi, je suis Gabin pour eux.
Alors, c'est un homme sensible, on sent bien, Mathias, mais c'est un homme qui n'avait pas que des qualités. On écoute deux de ses amis du cinéma, Madeleine Renaud et Henri Verneuil.
Son seul défaut, qui était peut-être une qualité, c'est qu'il était bougon. C'était pas de la mauvaise humeur, non, il bougonnait. Il bougonnait sur le temps, sur la température, sur les gens avec lesquels il vivait, sur les vedettes qui étaient des stars à ce moment-là et qui gagnaient plus que nous. Il bougonnait, mais tout ça avec son œil bleu magique et sa bonhomie charmante. Il avait beaucoup de cœur.
Qu'est-ce qui le faisait devenir comme ça, bourru? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il avait refusé notre code des gens aimables. Par exemple, quand nous allons déjeuner chez quelqu'un et que le gigot est très mauvais, on dit merci encore madame, nous avons fait un excellent déjeuner. Eh bien, Jean Gabin avait une fois pour toutes supprimé ce côté aimable. Il disait, j'ai fait un très mauvais déjeuner, c'était dégueulasse.
Est-ce qu'il était comme ça, Mathias?
Ouais, ce que dit Madeleine Renaud, je trouve que c'est très beau ce qu'elle dit, parce que c'est bon, c'est ça, c'est vrai. Il bougonnait surtout sur le temps, sur les impôts, sur les gens. Ce qu'il voulait, c'est de pas être emmerdé. Mais c'est vrai qu'il bougonnait comme ça, et il y avait toujours l'esprit de contradiction. Moi, je peux pas dire que qu'on dit bourru, machin, c'est pas vrai. Bougonner, voilà, c'est ça, c'est exactement. Il était comme ça, le matin, quand il se levait ou tout, ah, j'ai mal de ceci, puis petit à petit, la journée faisant, et puis quand il était avec quelqu'un qu'il aimait bien, ben, après, c'était parti, c'est, et puis même, moi, j'ai des souvenirs merveilleux avec lui, et puis il était gay, il était...
Mais il savait rire à table aussi. Hein. Ah bah, alors, il aimait bien le vin. Hein.
Bah, il aimait bien la bouffe. Hein,
mais... Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin, disait-il.
Voilà.
Hein. Il est mort en 1976, il y a 28 ans. Mais à t'entendre, on a l'impression qu'il est toujours là.
Est-ce que tu veux que je dise moi, je dis toujours la même chose. De toute façon, que ça soit papa et maman, pour moi, ils seront toujours là. Et de toute façon, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans et qu'on va la passer, c'est papa et maman, c'est son père et sa mère, on n'oublie jamais. Et j'ai eu des moments tellement merveilleux avec lui, que, bah oui, il est toujours là, quoi.
On le voit bien d'ailleurs aussi, il est là dans ses photos, dans les photos de ce livre, Gabin hors champ, hein, qui est un beau livre de photos que tu as écrit avec ta sœur Florence, et on le voit surtout dans sa vie privée. C'est très à la mode aujourd'hui d'étaler au grand jour sa vie de famille. Généralement, c'est plutôt d'ailleurs pour démolir quelques mythes, hein, on le sait avec quelques livres qui viennent de sortir. Là, évidemment, c'est pas du tout ton cas.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce que je dis, peut-être que c'est une vie un peu fade, celle de papa, par rapport à d'autres gens. Mais non. Ce qu'on a voulu, c'est présenter, montrer aux gens comment papa était. Mais c'était quelqu'un, comme il disait, je vais au boulot. Et puis après, je rentre chez moi, j'ai ma femme, mes enfants, ma vie, mes passions. Et, mais comme tous le, enfin, les gens normaux, je suis désolé, on était normaux, normal. Je peux pas te dire autre chose. Moi, c'est, et, mais c'était un père. J'ai eu une, des moments merveilleux, un père formidable. Et c'est ce que je dis toujours. Il m'a toujours appris une chose dans la vie. Il m'a dit, gros père, la droiture. Ça t'est toujours sa ligne de conduite. Pense pas qu'il y ait, c'est ce que je dis souvent où les gens m'en parlent. Ils disent, il n'y a pas de casserole chez Gabin. Ben non, il n'y a pas de casserole. C'est un, il a voulu toujours ça dans sa vie. Voilà.
Merci Mathias. Ben justement, on se quitte avec sa voix, avec cette très belle chanson chantée 2 ans avant la mort de Jean Gabin.
Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse.
Je rappelle le titre du beau livre publié chez Michel Lafon, Gabin hors champ, un livre écrit par ses enfants, Florence et Mathias Moncorgé, qui était mon invité aujourd'hui, et un livre qui sera donc en librairie mercredi prochain. Et puis à l'occasion du centenaire de Jean Gabin, allez visiter le musée Jean Gabin à Mériel, dans le Val d'Oise, la commune où il est né, et où il a passé son enfance, et qui organise ces jours-ci plusieurs manifestations en son honneur. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Éric Gérard, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.